Alors j'ai le privilège de, non pas de jouer les arbitres, mais de relancer, si nécessaire, Marius ce soir. Nous n'avons pas conçu cette soirée comme un dialogue à parité. Je suis ce soir son lecteur. Il se trouve que j'ai lu très très attentivement déjà la Symphonie du Loup, puis Les couleurs de l'hirondelle, et que j'ai eu la chance d'en écrire la quatrième de couverture. J'aurais volontiers fait une préface, mais d'une certaine façon, ce livre n'avait pas besoin de préface. Et je crois qu'il était peut-être plus juste d'intervenir plus sèchement ou plus synthétiquement, comme Marius m'a donné l'occasion de le faire, avec évidemment l'accord de son éditeur. Je vais donc tenter de faire le lien entre vous tous et Marius, entre vous tous, Marius et son texte. Et je vais commencer, Marius, par te poser une question très simple, et ensuite je crois que tu liras dans un premier temps. Mais je te pose une question au préalable, elle concerne le titre. Je fais une hypothèse sur le titre, elle est purement personnelle. Et au fond, elle n'est pas attestée par le texte lui-même. Alors, je ne dévoile pas mon hypothèse maintenant. Elle est en quatrième de couverture du livre. Je t'interroge sur le choix de ce titre, sachant que, d'une certaine façon, il n'y a pas d'hirondelle dans ce livre. Bien entendu, cela va de soi. Il n'y a pas vraiment de loup non plus dans la symphonie du loup, d'ailleurs.
Il y a un loup dans la symphonie, oui. Il y a le loup qui fait l'amour.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Mais... Je peux répondre maintenant?
Oui, oui.
Bah, tout d'abord, merci Sylviane, merci la Maison Rousseau, merci Yves. Yves qui est devenu, d'une certaine manière, l'un de mes parents littéraires avec ce quatrième de couverture. Avec le titre « Les couleurs de l'hirondelle », la chose elle est simple. Dans un des journaux, le Passe-Muraille, qui est sorti en l'année 2000, peut-être, j'ai publié des extraits de la Symphonie du Loup sous le titre « Les couleurs de l'hirondelle ». Parce qu'il y a un passage dans la Symphonie du Loup où je raconte le nid des hirondelles qui venait à la véranda sur la véranda de la grand-mère. Et j'ai vécu avec ces hirondelles mon enfance, jusqu'à 14 ans. Et c'était un sous-titre qui est devenu la Symphonie du Loup. Et je suis revenu à cela en proposant des nouveaux symboles pour la suite de la Symphonie du Loup. Donc pour ce livre... Parce que c'est vraiment le même livre, seulement en deux parties. C'est les mêmes personnages, des époques presque les mêmes, mais les mêmes personnages développés dans leur génération, dans leur évolution. Je travaille encore au même livre, peut-être je vais passer à un autre quand je vais épuiser le même, mais parfois je ne crois pas que je vais réussir à épuiser le même livre.
Voilà, donc tu réponds que tu as titré Les couleurs de l'hirondelle parce que c'était le sous-titre de la Symphonie du Loup et que tu as écrit un livre gigogne en attendant d'ailleurs le troisième, le quatrième ou le cinquième volume de ce même livre. L'hirondelle, elle a deux couleurs, autant que je sache.
Pour moi, oui, pour mon enfance, elle avait que deux couleurs, noir et blanc. J'ai appris qu'il y a plusieurs types d'hirondelles seulement après avoir publié ce livre. Il y a du rouge, du bleu et d'autres couleurs. Il y a l'hirondelle de fenêtre et de rocher. Mais tous les hirondelles, c'est des oiseaux migrants, c'est des oiseaux errants, c'est des oiseaux qui cherchent des pays chauds. Tous les hirondelles sont comme tu dis, ici, argentique.
Alors, ça leur fait, la migration, ça leur fait peut-être un point commun avec le narrateur. Moi, j'évoque la photographie noir et blanc, argentique, des années 60. plus personne ne sait ce que c'est que la photographie argentique ou presque, puisque nous sommes passés dans le tout numérique et par conséquent que le noir et blanc n'existe plus. En tant que tel, on peut retraiter en noir et blanc une image numérique, mais au fond, elle n'est pas captée en noir et blanc sur la pellicule. Et je fais un lien, en effet, je ne sais pas s'il t'a paru fondé, entre la photographie argentique en noir et blanc et ton écriture. Peut-être parce que cette écriture nous renvoie à ton enfance aux années 60, 70, à la Roumanie de la dictature, que peut-être d'ailleurs encore d'actualité, même si ce n'est plus tout à fait le parti unique qui dirige ce pays. Est-ce qu'il y a pour toi, effectivement, dans ton écriture, et puis après, il faut que tu lises, hein, mais est-ce qu'il y a pour toi, dans ton écriture, une dimension photographique au sens où j'essayais de définir
oui,
la
oui,
photographie.
Oui, il y a plutôt une dimension filmique qui inclut une multitude de photos. Donc la photo, elle existe, mais dans une suite permanente de photos qui créent une sorte de film, parfois des courts-métrages, parfois des longs-métrages, par les détails, par les explications, oui, par le rythme, par la précision, par la description. Nous savons tous que n'importe quelle description, même si c'est une formule mathématique, est une métaphore. Là, je le dis même dans le livre, à un moment donné. Donc, une photo, une métaphore, une description, des détails très profonds parfois.
Je ne me trompe pas si je dis que cette photographie est plutôt en noir et blanc, comme sont par définition en noir et blanc les pages d'un livre. Semblait idiot, mais c'est d'autant plus frappant pour moi que cette couverture est une des rarissimes couvertures dans lesquelles les éditions José Corti ont introduit un élément de couleur. Tu m'as dit que c'était pratiquement la première chez Corti
non,
avec de la couleur.
Enfin, il commence à s'ouvrir à des couvertures avec des images, mais c'est parmi les premières, oui, c'est parmi les premières. Et c'est drôle parce que ça vient d'eux. Moi, je ne les oblige pas. Je peux les obliger, mais je ne les oblige pas. J'ai dit, mais faites ce que vous voulez. Et ça vient toujours de la Symphonie du Loup. C'est la même chose. C'est la couverture, la forêt, c'est eux. Ça,
c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, la couverture de la Symphonie du Loup.
Ça vient d'eux et tant mieux pour tout le monde.
Maintenant, il faut que tu lises.
Je vais vous lire le début de ce livre, Les couleurs de l'hirondelle. Tu es devant la morgue de l'hôpital de la ville. Il y a avec toi ta cousine et ton oncle. Vous êtes debout et vous parlez de la morte que vous êtes venue chercher. Ce jour-là, elle n'était pas sortie comme d'habitude. Les voisins ne l'avaient pas vue passer lentement dans l'allée en s'aidant de sa canne. Tu regardes la camionnette avec laquelle vous avez fait le voyage depuis la campagne. Tu regardes son plancher rouillé. Vous êtes les trois à côté de cette voiture que ton oncle a empruntée auprès de l'un de ses amis. Elle était malade, mais elle allait bien avec ses médicaments. Parfois, elle refusait pendant des semaines de prendre ses pastilles. Elle disait que c'était le bon Dieu et sa petite fille qui la gardaient encore sur cette terre. Vous faites la queue pour prendre votre morte. Vous êtes en troisième position devant l'entrée principale de la morgue. Tu regardes, une par une, les marches des escaliers en béton que tu dois bientôt monter pour aller chercher la dépouille de ta mère. Au moins, elle n'a pas souffert. Elle est morte d'un coup. Elle n'a pas eu à traîner des semaines ou des mois, comme un légume. Ta cousine commence à pleurer et tu la prends dans tes bras. Tu la serres contre ta poitrine. Tu entends ses pleurs. Tu Tu sens les spasmes de son corps et par-dessus sa tête, tu vois le gardien de l'hôpital qui ouvre la grande porte rouillée pour laisser sortir une voiture des pompes funèbres de la ville. Il porte des gants de travail usés et tachés d'huile de moteur. Il enlève d'abord le loquet métallique. Il tire en reculant le battant gauche vers l'intérieur de l'enceinte. Il le soulève au-dessus des bosses de l'asphalte. Il le pousse jusqu'au mur de sa guérite faite de briques. C'est sa voisine d'en bas qui nous a appelés. Elle avait attendu 2 jours pour le faire. Au début, elle croyait que ta mère était en visite chez nous. Ta cousine pleure et tu la serres dans tes bras. Elle dit que ta mère était sa tante préférée. Tu as le dos contre le battant latéral droit de la camionnette. Tu vois le gardien de l'hôpital. Tu le regardes. Tu vois ses gestes. Il ouvre la deuxième partie de la porte rouillée. Tu vois 4 chiens sortir sur le trottoir. C'est bien que tu sois venu enterrer ta mère. Il y a des gens qui travaillent à l'étranger et qui ne viennent pas pour enterrer leurs parents. Le gardien accueille auprès de sa guérite ses 4 chiens abandonnés. Tu penses à ta mère, tu prononces dans ta tête le mot « abandon ». Tu penses aux enfants abandonnés par leurs parents, tu penses aux parents abandonnés par leurs enfants. Tu penses aux milliers de chiens abandonnés chaque année dans ton pays. Tu penses à ces chiens qui trouvent refuge là où ils peuvent. Tu sens que ta cousine se calme. Elle se retire de tes bras. Tu vois 4 hommes qui portent un cercueil fermé et ils descendent les escaliers de la morgue. Ils font de petits pas, ils se parlent. Tu ne comprends pas leurs paroles. Ils portent le cercueil vers la voiture avec laquelle ils veulent amener leur mort. Ton regard est maintenant sur un petit bâtiment en ruine. C'est l'incinérateur de l'hôpital qui a explosé. Ils n'ont plus d'endroit où faire brûler les parties des corps humains qui restent après les opérations, dit ta cousine. Tu penses à ta mère que tu vas voir morte dans quelques instants. Le gardien referme les portes métalliques. Il appelle les chiens qui reniflaient le trottoir. Tu penses à ces chiens qui mangent des restes de la cantine de l'hôpital. Ton oncle voit que tu regardes les chiens et il te dit « Ces chiens sont bien ici, auprès du gardien. Ils ont à manger et personne ne les chasse. Dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui vivent pire que les chiens vagabonds. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se chauffer pendant l'hiver. Tu vas voir ta mère morte et tu la regardes dans ta mémoire comme elle était debout dans l'allée où tu l'as vue en vie pour la dernière fois. Elle s'appuie sur sa canne en bois et elle est en larmes. Tu repars à l'étranger où tu travailles. Tu viens de lui donner quelques cadeaux et un peu d'argent. Tu lui as apporté des fruits et des légumes, tu lui as acheté de la viande et des conserves. Tu lui as aussi donné une bouteille de vin. Elle pleure et elle te fait signe de sa main. Tu la vois à travers la vitre de la voiture qui se met en marche. Ton oncle qui est au volant te raconte. Ma sœur a une bonne retraite par rapport à la mienne. Avec la nourriture que tu lui as apportée, elle a de quoi vivre pendant 2 semaines. Ta mère aime bien boire un coup de rouge avec le repas. Tu sens la main de ton oncle sur ton épaule. Il est en larmes et il te dit « Va chercher ta mère. » Il nous appelle. C'est à notre tour d'entrer pour chercher notre mort. Va la chercher pour qu'on l'enterre. Je ne viens pas avec toi. Je l'ai déjà vue morte dans son appartement et je ne veux plus la voir dans cet état. Tu te tournes vers la droite, tu commences à marcher vers les escaliers de l'entrée de la morgue. Tu Tu sens comment la main de ton oncle se détache de ton épaule. Tu vois ta cousine qui marche à côté de toi. Tu montes sur la première marche des escaliers en béton. Comme elle habitait au premier étage, nous sommes montés sur son balcon à l'aide d'une échelle. Les stores n'étaient pas baissés et c'est à travers la vitre de sa chambre qu'on l'a vue morte dans son lit. Chaque pas que tu fais est lent et tu as l'impression de marcher sur place. Tu regardes ta cousine qui t'accompagne. Elle salue un homme qui travaille à la morgue. Elle a dans sa main les papiers du décès de ta mère. Tu montes la deuxième marche des escaliers. Avec le policier et les deux pompiers, nous avons décidé de casser une vitre pour ne pas enfoncer la porte d'entrée de son appartement. Quand nous sommes entrés dans la pièce, il y avait une forte odeur de putréfaction. Ta mère avait le visage noir à cause du sang. Elle a dû avoir une attaque du cœur. Tu vois le couloir sombre vers lequel tu te diriges. Tu cherches dans ta mémoire le visage de ta mère. Tu la retrouves photographiée avec toi. Tu es dans ses bras et tu as ta tête penchée vers son cou. Ta mère doit avoir 35 ans. Tu dois avoir 4 ans sur cette photo. Tu avances. S'appuyer fort dans sa chambre et son corps était plein de pus qui sortait et tachait la couverture dans laquelle nous l'avions mise pour la transporter. Ta cousine t'a devancé, elle cherche le responsable de la morgue, tu la suis, tu l'entends parler, tu ne comprends pas ce qu'elle dit, tu continues à monter les escaliers. Elle était morte depuis 2 jours. Il y avait une 20aine de femmes et d'hommes qui nous ont regardé l'amener avec la couverture vers l'ambulance. Tu es maintenant dans le couloir sombre. Un homme t'attend devant une porte. Il te dit « C'est là ». Et il te montre cette porte grise. Ta cousine est à côté de lui. Tu les vois se déplacer lentement. Ils te font de la place. Tu ouvres la porte et tu entres. À ta gauche, tu vois le cadavre d'un homme sur une table en béton. Il est habillé et chaussé et il porte un bandeau qui lui soutient la mâchoire inférieure. Sur la table en béton qui est sur ta droite, tu vois un drap taché de sang noir. Tu sais maintenant que ta mère repose sous ce drap sale. Tu vas vers elle. Tu sens la froideur de cette pièce. Tu t'arrêtes à quelques centimètres de la table. Tu poses ta main droite sur le drap. Tu sens à travers ce drap le ventre de ta mère morte. De ta main gauche, tu enlèves la partie du tissu qui lui couvre le visage. Sa peau est noire et ton regard s'approche des contours du visage de ta mère. Ta main gauche se pose sur son front. Avec la droite, tu enlèves complètement le drap sale et tu vois ta mère morte et nue sur cette table en béton. Ta mère a une brique en terre sous la nuque. Cette brique en terre soutient sa tête comme un oreiller. Tu vois la longue cicatrice de l'autopsie. Tu te penches vers elle et tu l'embrasses sur la joue. Tu sens l'odeur de cadavre mélangée à celle du formol. Une voix d'homme te parle. « Ne la touche pas, c'est plein de microbes. » Cet homme te montre un lavabo en fonte et te dit de te laver les mains avec le produit spécial posé dans la savonnière. Il dit que maintenant tu dois débarrasser le corps de ta mère. Il dit qu'il n'est pas obligé de t'aider pour mettre le corps de ta mère dans le cercueil. Tu te demandes comment tu vas faire pour mettre tout seul le corps de ta mère dans le cercueil. Tu penses que tu vas prendre ta mère dans les bras et que tu vas la porter quelques pas jusqu'au cercueil que ton oncle a transporté à l'entrée de cette chambre froide. Tu veux prendre ta mère dans les bras pour la porter à son cercueil. Tu t'approches d'elle, tu entends ta cousine. Tu fais quoi ? Tu lui dis que le personnel de la morgue ne veut pas t'aider pour mettre le corps de ta mère dans le cercueil. Elle dit Ils veulent de l'argent, il faut leur donner de l'argent, ils veulent leur pourboire, et après tu vas voir, ils vont t'aider. Tu lui réponds, donne-leur de l'argent. Je ne sais pas comment ça marche dans cette morgue. Tu la vois sortir de la pièce froide, tu la vois parler avec un homme et une femme. Ta cousine sort de l'argent de son sac à main. Tu vois les mains de ta cousine qui donne des billets de banque dans les mains de l'homme et de la femme qui travaillent à la morgue. Le premier chapitre des couleurs de l'Hirondelle.
C'est particulièrement éclairant de t'entendre lire, parce que pour la première fois, je m'avise d'une chose dont je ne m'étais pas avisé aussi clairement. Je ne vais peut-être pas le dire comme ça, je vais te poser la question. Traditionnellement, on considère, c'est une subdivision parmi d'autres, qu'il y a en littérature plutôt des écrivains du regard, on a parlé d'une école du regard, et des écrivains, disons, de la voix. Pour dire les choses, c'est prendre quelques-uns de mes auteurs favoris, mais qui sont certainement aussi parmi les tiens. Et toute considération de langue mise à part, on peut mettre du côté des écrivains, disons, du regard, des écrivains comme Peter Handke, par exemple, comme Modiano peut-être aussi, et sans doute comme Claude Simon. Et puis, on peut mettre plutôt du côté des écrivains qui mettent la voix, VOX, au premier plan, bien sûr Céline, mais bien sûr aussi, par exemple, en langue allemande, Thomas Bernhard ou bien d'autres. Faulkner, à certains égards, mais peut-être fait-il justement le lien. Il est très intéressant que François Bon se soit intéressé à ton écriture, parce que cette question le concerne. Il est plutôt, je crois, du côté des écrivains de la voix, si on peut se permettre cette subdivision, mais il est comme Faulkner, et peut-être bien comme toi, quelqu'un qui permet vraiment de faire le lien entre ces deux approches. Et j'aimerais savoir si toi, tu as plutôt le sentiment d'appartenir à la première ou à la seconde de ces écoles, si tant est que ce soit des écoles, et sinon, comment l'une et l'autre influent sur ton écriture, ou plutôt comment ton écriture fait avec l'une et l'autre. Mon hypothèse est qu'il y a un élément de synthèse dans cette écriture qui est très rare chez les meilleurs écrivains entre ces deux appréhensions initiales de l'écriture narrative. Parce que j'entends à la fois véritablement une polyphonie dans ce qui est écrit là, et aussi, on parlait de photographie et de cinéma tout à l'heure, une vision qui s'impose à travers cette polyphonie et qui est très au-delà de la description, de la restitution, picturale dans l'écriture. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ou confus.
Non, mais j'ai très bien compris.
C'est évoqué par ton écriture.
Il y a la voix, le son, le rythme, quelque part, et l'image. Et le mot école, moi, je crois que j'appartiens à l'école de la vie, tout d'abord, qui inclut toutes ces écoles, tous ces courants, tous ces concepts, quelque part. Et bien sûr, qui inclut aussi une sorte d'école de la littérature, parce que j'ai lu, j'ai analysé, je lis, j'apprends toujours, j'analyse, j'apprends. Je ne veux pas réinventer la roue avec l'image ou la voix. Moi, j'ai un parcours de l'école de la vie, dans la littérature aussi. Et c'est drôle parce qu'un ami lausannois me dit « Mais écoute, Marius, tu fais toujours comme il ne faut pas et ça marche. » Dans la littérature compris, il veut parler de ça aussi dans la vie. Et justement, il est très sûr que lui et d'autres, ils savent comment faire, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est comme ça que ça marche. Une fois que ça ne marche pas, ils disent « Bon, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. » Et moi, non, je fais le contraire. Je fais comme il ne faut pas par rapport à lui et ça marche, que ce soit filmique ou voix. Et par rapport à la voix, j'ai une petite anecdote. Je n'étais pas un mauvais élève au lycée. J'étais très bon en maths. C'est pour cela que j'ai fait Polytechnique. Mais dans les autres matières, j'étais la moyenne, quoi. 7, 8 parfois sur 10. En maths, j'étais le meilleur du lycée, donc 10, 10, 10 sans arrêt. Et en roumain, qui était comme ici le français, 7, parfois 8. Et la prof de roumain, la dernière leçon de roumain avant le bac, elle nous a dit à toute la classe, écoutez, vous trouvez un poème d'amour, vous venez le lire et je vous donne la note sur cette lecture du poème d'amour. Et moi, là, j'ai trouvé mon poème d'amour. Les autres lisaient. Moi, Popescu, j'étais vers la fin du registre et tout ça. Mais j'ai commencé à lire comme j'ai lu maintenant. Donc, avec ma sincérité, je vivais sans penser à elle. Hein, voilà, et je lisais mon poème d'amour. Ils étaient tous bouche bée, la prof compris. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, tu as tout caché, tu as caché ça pendant 4 ans de lycée. Et non, je ne cachais pas, mais je n'étais pas aidé non plus à dévoiler mon côté voix, sincère, lecture, acteur. On vivait un monde un peu fou, pas mal fou. Donc voilà, il y a la voix, il y a la photographie. La photographie, c'est une sorte de contemplation analytique, observateur. Et ça, j'ai ça depuis petit, je ne fais pas exprès. Et j'ai appris à transformer ça en littérature. Je ne suis pas le premier, je sais que je ne suis pas le dernier non plus, qui puise dans sa vie pour transformer sa vie en littérature. Tout d'abord, il y a des prédécesseurs, plus ou moins connus, plus ou moins respectés. Personnellement, je ne juge pas les autres, chacun avec son domaine. Celui-là, c'est mon domaine préféré pour l'instant.
Quand tu commences à écrire la symphonie du loup, mais en l'occurrence les couleurs de l'hirondelle, et c'est le même mouvement d'écriture, tu as le sentiment d'être traversé plutôt par des voix ou plutôt par des images?
Je suis traversé ni par des voix ni par des images. C'est plutôt moi qui traverse des voix et des images. Non. Je suis très lucide.
Des voix te reviennent, des images te reviennent ou
moi
non,
j'invente la voix. C'est moi qui les invente. Mm-hmm. Il y a pas qui me traverse. Non. C'est moi qui trouve, qui invente. Et bien sûr, il y a ce que Madame Sylviane Dupuis a dit. Il y a une sorte d'incantation quelque part. Parfois peu, parfois beaucoup. Parfois, il y a des descriptions très minutieuses, dans le sens, comme j'ai cité, la métaphore de chaque description, même si c'est une formule mathématique. Parfois, j'utilise même des formules mathématiques. Parfois, j'utilise même des tickets de caisse de la Migros ou de la Poste Suisse. Parfois, j'utilise même des étiquettes de n'importe quel produit, parce qu'en Suisse, il y a ce côté plurilinguistique, et sur chaque produit, on a au moins 3 langues, ou l'anglais, en plus de la 4e langue, et ça me parle, ça me dit de à la fois être témoin de ce monde suisse et mettre toutes ces langues, toutes ces paroles. Donc en revenant à cette histoire de traverser, non, j'essaie d'inventer la langue sincère qui peut surprendre à l'aide de la langue française. Donc la musique, en s'aidant de la langue française, qui peut faire vibrer ce qui m'a fait vibrer moi, ce qui me fait vibrer moi. D'abord, parce que moi je fonctionne d'abord avec l'école de la vie, c'est-à-dire tout ce qui me touche. Et comme il y a pas mal, presque sans arrêt, qui me touche, maintenant on essaye de faire quelque chose avec ça, vendre ça, voilà, quelque part. Mais vendre d'une manière honnête.
Alors, ce livre s'ouvre par ses pages stupéfiantes sur la mort de ta mère, comme de la mère du narrateur, si l'on doit faire la différence, peut-être faudra-t-il en parler, comme la symphonie du loup s'ouvrait sur le souvenir et l'évocation très précise de la mort du père. quand tu commences à écrire les couleurs de l'hirondelle, tu as déjà une sorte de plan où tu pars de cette situation vécue, où tu vas prendre livraison, et je crois qu'il faut faire retentir le mot, du corps de ta mère dans cette morgue en Roumanie. Est-ce que c'est ce moment-là, ce choc-là, qui est au départ de l'écriture de ce livre? Est-ce que tu veux agencer tout le livre autour de ce moment, ou est-ce que c'est une circonstance qui va en entraîner d'autres dans le livre, mais qui n'est pas nécessairement en position, comment dire, originaire. Enfin, et la question subsidiaire, plus scolaire, est-ce que tu écris avec une sorte de plan, en recomposant quelque chose, ou est-ce que tu vas te laisser guider dans l'écriture par le travail en toi et sur toi et dans ton écriture même de cet événement que tu réinventes en l'écrivant et qui t'a touché parce qu'il y a pour le moins des liens très étroits entre le narrateur et toi, de si près. Quand je dis qu'il y a des liens très étroits entre le narrateur et toi, je commets peut-être une indiscrétion, mais enfin, je me souviens d'une brève conversation téléphonique qui m'avait laissé pétrifié et ému, que nous avions eu, puisque tu m'avais lancé un bref coup de fil à l'occasion de ce voyage en Roumanie, où tu étais pour prendre livraison du corps de ta mère morte.
Il y a les deux. Quand j'ai compris que je peux, d'une manière raisonnable, d'une manière acceptable pour les autres, vous, lecteurs, critiques de toutes sortes, quand j'ai compris que je peux faire un travail littéraire acceptable en utilisant ma vie et ma vie avec les autres, bien sûr. Je ne suis pas seul. Je raconte ce que je vis avec les autres, ce que les autres vivent aussi. Quand j'ai compris que je peux le faire de cette manière acceptable, le plan, il s'est créé tout seul et il est très vaste. Et c'est un plan où j'aimerais, où j'aime être un témoin littéraire de ce que j'ai vécu en Roumanie, de ce que je vis ici, témoigner à ma manière, par le biais de ce travail littéraire. Donc, c'est un plan global où je sais que je dois mettre toute ma mémoire et toute la mémoire de chaque seconde, parce qu'à chaque seconde, on crée de la mémoire. Donc, sans arrêt, j'accumule, je décide, je vibre avec les autres, avec vous. Et là, ça s'accumule, et le plan, c'est le tout d'abord. Mais le tout, on doit sélectionner, chacun sélectionne à sa manière, plus ou moins analytique, plus ou moins inventif. Et là, dans le sens littéraire, bien sûr, comme axe de cette mémoire, il y a la mère et le père, c'est des individus universels. La mère et le père, ils existent chez tous les peuples, chez tous les êtres humains. Et la vie et la mort aussi, surtout de ses proches, la mère et le père, par accident ou pas. Les conditions de ses vies, de ses morts, c'est aussi important. Et après, il y a une structuration qui se fait peut-être parfois un peu par hasard, mais qui a sa logique, où je peux inclure des éléments apparemment sans liaison avec l'axe du livre, et j'ai vu que ça fonctionne. Et bien sûr, dans ce livre, il y a plein de détails divers, de deux mondes, de deux pays, même de plusieurs. Il y a même plusieurs styles d'écriture par rapport à certains sujets. Donc, répondre encore une fois à cette question, il y a le plan global immense qui est quelque part prémédité depuis longtemps, depuis le moment où j'ai compris que je peux travailler ici, et mon travail est plus ou moins accepté, ça fonctionne, je ne travaille pas pour rien, c'est comme on fait des souliers, si on ne les vend pas, ça ne sert à rien, il faut renoncer, mes souliers ça va, Et après, la structure qui se fait au fur et à mesure qu'on écrit, au fur et à mesure qu'on vit, au fur et à mesure qu'on analyse et qu'on essaie d'être quelque part inédit dans le bon sens.
Alors, nous sommes peut-être quelques-uns ici à avoir, comme moi, vu ton appartement à Pouilly et par conséquent vu au mur d'appartement tout le roman déployé, puisque tu agrafes au mur toutes les pages du livre en cours d'écriture. Tu l'avais déjà fait pour la Symphonie du Loup, tu l'as fait pour Les couleurs de l'hirondelle, tu l'as fait, je crois, tout au long de la rédaction du livre.
Oui,
À
c'est vrai.
partir de là, alors on pourrait imaginer en puzzle, évidemment, on pourrait imaginer que tu déplaces des éléments. Tu joues beaucoup avec les mots, il y a des éléments ludiques hein, dans ton écriture. Il faudrait parler du rôle que joue la fille du narrateur à cet égard et la question même des apprentissages scolaires. Mais est-ce que toi-même, tu as construit le livre en juxtaposant des éléments successifs, en les déplaçant, ou est-ce que, comme j'en ai l'impression, et comme le lecteur en a, je crois, l'impression, mais c'est peut-être une impression fausse, tu as écrit ce livre du début à la fin, afficher tes pages au mur dans l'ordre de succession de l'écriture et finalement décider à un certain moment que le bloc était fermé et le livre clos et publier des choses sans aucun déplacement de séquence,
Voilà.
d'unité,
Non, non, non,
etc.
il y a eu des déplacements. Et justement, j'ai le plan global, les axes forts, comme on dit. J'introduis d'autres éléments par rapport aux notes et aux chapitres que j'aimerais introduire et développer. Mais par paresse ou par manque de temps, je ne prends pas le temps pour faire le plan par écrit. Je le fais d'une manière spontanée, je le garde dans la mémoire, je le maîtrise à un bon moment. À un moment donné, je ne sais plus. À un moment donné, je me dis, mais attends, le chapitre que j'ai noté ici, est-ce que je l'ai mis dans des livres? Et je vérifie dans les livres, voilà. À un moment donné, j'ai besoin de vraiment voir. Alors j'affiche, je passe en revue, je déplace un peu ou beaucoup, j'introduis un autre chapitre pour donner mon rythme, ma structure à moi. Et c'est seulement une fois que le livre est publié que je commence à dire, chapitre 1, j'ai dit ça et ça. Et je fais le résumé de chaque chapitre et la structure du livre pour bien avoir ça maîtrisé. C'est ça ma manière exacte de faire. Et voilà, donc c'est un peu après que je fais le plan. Et c'est vrai que parfois je me dis, bah, j'ai pas parlé de ça, j'aurais dû parler d'un autre chapitre. Et j'ai toujours la mémoire qui revient, et toujours la vie de chaque jour et de chaque moment qui revient et qui me dit, mais ça, tu dois parler de ça, ça, tu dois parler de ça. Et je note sur mon portable, sur mon ordinateur, sur mon carnet, j'ai toujours un carnet dans ma mémoire. Et voilà, j'aimerais pouvoir noter chaque seconde de ma vie avec vous, avec les autres, mais je sais que c'est impossible.
Le narrateur prend livraison du corps de sa mère, c'est le premier chapitre, mais ça va se développer tout au long
Et le
du
deuxième va
livre,
suivre, je vais le
tout
lire.
au long et tout au long du livre, cette image, cette situation initiale va se déployer. Il en prend livraison seul, si je puis dire, enfin avec les membres de sa famille qui sont sur place. Et puis il revient, tu reviens. Avec sa fille au pays lors de d'autres voyages postérieurs à cet événement, et je crois pour certains antérieurs aussi, qui sont évoqués dans le livre. Est-ce qu'on peut considérer du point de vue du mouvement de la lecture et de l'écriture tout à la fois, que la fille que c'est un livre aussi sur la transmission et que ce qui est rendu possible par l'aller-retour entre Lausanne et Bucarest ou la Roumanie, entre la Suisse et la Roumanie, même s'il n'est pas nommé, que tout cela, en quelque sorte, que le narrateur peut retrouver son pays et sa mère, même morte, parce qu'entre-temps, eh bien, cette fille est née, qui va lui donner à nouveau accès au pays d'où il s'est exilé, dans des conditions qui sont évoquées dans le deuxième tiers du livre et vers la fin du livre, et qui sont celles de la lutte politique, puisque le narrateur, qui doit te ressembler tout de même beaucoup à un certain moment, âgé d'une vingtaine d'années, quel âge avais-tu? Un tout petit peu plus.
Quand
tu quittes, la Roumanie, voilà. Quitte ce pays sous dictature après avoir participé tout de même à un mouvement estudiantin assez vif, enfin de contestation du régime. Et il va assister à la chute, et tu vas participer d'une certaine façon à cette
faire la guerre
à cette chute de la dictature de Ceausescu, dont tu montres d'une façon extrêmement troublante, mais je crois très vraie pour ceux qui se sont intéressés de près à l'événement, qu'elle reste un événement quasiment théâtral, hein. C'est une dictature bien réelle qui est remplacée par une dictature de Pérette, où c'est une révolution de Pérette qui atténue sans doute les effets de la dictature du parti unique, mais sans avoir vraiment changé le système. On a juste déplacé les cartes.
Mais là, t'as dit beaucoup. Je ne veux pas répondre à...
Tu ne veux pas répondre à tout ça. Tu vas serrer mes questions. C'est ta faute, il est fait comme ça.
Justement, il y a une alternance de plein de sujets quelque part. Et moi, j'essaie de ne pas créer un message. J'essaie pas de diriger, j'essaie de présenter des faits. Et c'est le lecteur, les autres qui jugent. Et par rapport à ça, j'ai quelques anecdotes à vous présenter. Grâce à mes livres, maintenant, parfois je vais en mission. En mission, ça s'appelle. Mm-hmm. J'étais en mission en Iran pour les Français il y a 3 ans. Et on parlait français, et c'était pendant une conférence où il y avait que des ambassadeurs, ambassadrices, attachés culturels de plein de pays francophones, et plein d'Iraniens aussi, francophones. Et bien sûr, ma symphonie du loup, c'est un peu la dictature et tout. Et à un moment donné, un Iranien, il me dit, ouais, bon, on a compris, mais c'est quoi le message de votre livre ? Et là, j'ai dit, mais monsieur, moi, j'ai pas de message, moi, je m'amuse. Et j'ai pris un poème que j'avais dans le journal Le Persil où j'utilisais le mot « cul » plusieurs fois, et je l'ai lu en français devant les Iraniens et les autres. Et bon, celui-là, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, mais moi, j'ai aimé, j'étais applaudi, tout ça. Le message, moi, je m'en fous du message. Le message, on peut trouver 1000 messages dans n'importe quel livre, des messages, des interprétations de messages très contradictoires, extrêmes. Un dit « j'aime », c'est le message de la paix, l'autre dit le message de la mort ou de la guerre. Et maintenant, la deuxième anecdote, avec la symphonie du loup. Dans mon pays d'origine, le pays de là-bas, la Roumanie, l'année passée, avec le livre traduit en roumain, j'ai lu un chapitre où je raconte... Le cheval martyrisé, c'est un cheval maltraité par des ouvriers désemparés, au propre figuré, et le cheval finit par mourir. Et un prof universitaire, jeune prof universitaire, mais très endoctriné, qui a presque mon âge, donc peut-être même pas 2 ans de plus que moi, il lève la main devant tout le monde, il dit, mais je ne suis pas d'accord avec vous, les Roumains ne sont pas capables de faire cela, ce n'est pas plausible cela, ce que vous dites. Les Roumains ne sont pas capables de malheur pareil. Et là, je dis, mais écoutez monsieur, les Roumains ont tué du juif, les Roumains ont tué du gitan, les Roumains ont fait autant de massacres que n'importe quel peuple, donc il faut que vous calmez vous là, hein, parce que ce n'est pas les Roumains le peuple le plus sain du monde, ce n'est pas les Roumains les plus calmes, les plus machins. Et ce que je vous raconte ici, c'est une histoire vraie. Alors, si que vous croyez ou pas, plausible ou pas, c'est à vous de décider, mais vos conneries non, on est pur et tout ça, un nationalisme de la pureté roumaine, ça ne va pas du tout. Et non, il n'a pas accepté. Il m'a fait chier pendant 1 heure. Il levait de nouveau la main pour dire la même chose. Non, les Roumains ne peuvent pas faire ça. Je dis, mais écoutez, bon, allez-y, prenez le micro, les Roumains ne peuvent pas faire ça. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc là, par rapport au message, par rapport aux structures et les messages que je veux donner, je me garde de donner les messages, je donne des faits. Des faits. Et parfois, c'est vrai. J'ai des petites philosophies, peut-être. Et c'est surtout la philosophie avec le langage. Je me penche vers l'absurdité du langage, n'importe quel langage humain, donc la langue, que ce soit le français ou le roumain. Dans la symphonie du loup, l'un des narrateurs dit que les mots ne devraient pas exister. Et ici, très explicite, très pédagogique même, le narrateur dit que les mots maintenant vont aller à la récré, à la récréation. C'est comme à l'école. Les mots, maintenant, c'est sérieux. Et maintenant, à la récré. Allez-y, courir, crier, hurler, vous taper dessus, vous amuser. Là, c'est bon. Et ça donne autre chose dans le langage, une autre manière de faire chanter le langage, la langue française, cette fois-ci. Et pour revenir à la structure vraiment directe, j'ai lu le premier chapitre, je vais vous lire le deuxième, parce que justement, il y a l'alternance de vie et mort, il y a deux générations, deux femmes cette fois-ci, parce qu'il y a la fille. Et je vais vous lire le
Justement.
deuxième chapitre.
Justement, ce sera ta façon de répondre à la question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est-à-dire le rôle que joue la fille du narrateur dans ce retour au pays et dans quelle mesure est-ce qu'elle permet au narrateur de renouer avec le pays d'où il s'est exilé? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Peut-être qu'il s'agit d'autre chose.
Donc justement, c'est
Mais
justement quand j'ai dit l'histoire de message,
j'écoute.
moi je m'en fous des
C'est pas un
gens. Non mais,
message.
non, mais attends,
Je
j'ai
t'ai
pas
pas.
fini. Donc je m'en
Non,
fous
sûrement pas, moi
complètement.
non
Je m'en
plus.
fous
Vas-y.
complètement des gens qui interprètent mon livre comme le livre d'un immigré, le livre d'un errant, le livre d'un roumain, le livre machin. Ils ont raison. J'accuse personne dans son interprétation. Je suis habitué et c'est normal que chacun découvre et dit sa vérité. Voilà. De temps en temps, je peux les contrer, je les compte, mais je ne perds pas le temps avec ça. Bien sûr, je suis roumain. Bien sûr, il y a du vrai là. Mais en même temps, il y a plus que ça, je crois, dans la structure du livre et dans le livre. Bien sûr qu'il y a alternance de génération, bien sûr, c'est inévitable. Mais je crois qu'il y a plus. On va parler après. Je lis le deuxième chapitre surtout pour montrer cette alternance que tu as déjà nommée jusqu'à maintenant plusieurs fois même.
Et ensuite, je crois que notre échange va devenir plus collectif. Quand tu auras lu le deuxième chapitre, nous dialoguons avec l'ensemble des participants, si tu le veux bien.
Bien sûr que je le vois.
Non, parce que je regarde, je
Moi, je ne
joue
regarde pas la
je
montre,
joue
non,
les,
mais
je
c'est
joue
bon.
les arbitres, donc je regarde aussi
Alors, deuxième chapitre. Elle sort de sa chambre, traverse le hall de l'appartement, passe le seuil de la cuisine, s'approche de l'armoire, placée entre l'évier et la cuisinière, ouvre la porte d'en haut, prend une petite assiette, referme la porte de l'armoire, se retourne, pose l'assiette sur la table, contourne la table, ouvre la porte du frigo, prend le fromage du tiroir d'en bas, referme la porte du frigo, revient vers la table, pose le morceau de fromage sur la petite assiette, va vers le tiroir qui contient les couverts. Ouvre le tiroir en bois, prend le couteau, referme le tiroir, revient à la table, prend le fromage de sa main gauche et coupe lentement deux tranches fines de gruyère qu'elle laisse tomber sur l'assiette. Elle pose le couteau dans l'évier, range le reste du fromage dans le frigidaire. Prends l'assiette avec les deux tranches fines de fromage, va dans sa chambre, pose l'assiette sur son bureau, prends sa dent tombée hier soir
sur le coin du meuble et la pose sur l'assiette à côté du fromage préparé pour la souris. Voilà le deuxième chapitre.
C'est une astuce de ta part. C'est d'ailleurs pas le deuxième chapitre.
Mais oui, c'est le deuxième. Merde. Mais regarde.
Bien sûr, il y a quatre pages et puis il y a trois étoiles. Et puis il y a 15
mais
lignes.
Mais regarde, ils sont là, les étoiles. Là. T'as pas vu, t'avais pas
mais
vu.
Mais si, bien sûr. Mais si, c'est le deuxième chapitre que j'ai vu. Mais je pense
c'est
que.
C'est fait avoir, là.
Je pense que ce livre n'est pas divisé en chapitres.
Non, mais chapitre, c'est-à-dire que c'est. Il y a des étoiles qui divisent les chapitres. Bon, moi, oui, je les appelle chapitres.
Ce ne sont pas.
Tu peux les appeler comme tu veux, quoi.
Non, non, c'est un livre qui est tout d'une pièce et avec un certain nombre de fragments qui se succèdent et qui constituent un événement quasiment musical. Alors, tu parlais de symphonie pour le loup, je parle ici d'une cantate, on peut discuter, mais il y a en effet quelque chose de plus resserré et de plus dense encore, à mon avis. Peut-être un peu moins épique, mais plus dense dans les couleurs de l'hirondelle. Il n'y a pas de chapitre, à mon avis. Hein. Il y a un événement de langage et de vision qui se déploie sur 250 pages. Si
photos.
Tu veux, c'est autre chose. Ouais. Autre chose. Et je dis que tu es très malin parce que tu lis en effet le deuxième fragment. Qui est très descriptif, qui est une sorte d'apologue, qui est très drôle en même temps. Mais tu n'as pas vraiment répondu à la question qui me paraît centrale, qui est celle de la transmission et du rôle que joue la fille du narrateur dans cette possibilité du retour. Mais c'est peut-être aussi bien un retour vers le pays d'accueil qu'un retour vers le pays d'exil. À supposer qu'il y ait un pays d'accueil et un pays d'exil, une langue d'accueil et une langue d'exil. Je ne suis pas sûr de tout ça.
Mais bien sûr qu'il y a transmission. Tant qu'il y a deux personnes, père et fille, c'est des personnages, là, d'accord. Il y a une transmission, bonne ou mauvaise. Il y a une transmission qui est acceptée ou pas. De toute façon, tant qu'on révèle des faits, entre ces deux personnages, n'importe quel auteur qui parle de deux personnages qui s'appellent père et enfant, ou mère et enfant, bah on aura une transmission, comme j'ai dit tout à l'heure, acceptée ou pas, un conflit ou pas. Moi, je révèle des faits, et c'est vrai que là, le personnage qui est le père, il a une sorte d'émerveillement et une sorte d'éducation à sa manière envers la fille par les faits qu'il raconte, par les scènes qu'il décrit. Bien sûr, c'est inévitable qu'il y ait une transmission. C'est inévitable. Oui,
ce qui fait la particularité de l'expérience de ce livre et déjà du précédent, c'est que cet événement de la transmission, le passage des générations, si on veut, on voit son père mourir, on enterre sa mère, on devient père, tout cela.
On devient pasteur, comme Sylvain disait, pasteur chez soi, pasteur ailleurs, chacun est pasteur, homme ou femme.
Oui, sauf que cette expérience qui est au cœur de tant de livres, qui est engagée dans la littérature de bien des manières, il est relativement rare qu'elle passe aussi et qu'elle soit concernée à ce point par l'expérience du passage non seulement d'un pays à l'autre, mais d'une langue à l'autre. Et de ce point de vue-là, le personnage de la fille joue un rôle absolument particulier dans cette écriture et dans ce livre-là. Elle ne jouerait pas le même rôle si le narrateur prenait livraison du corps de sa mère dans son pays et dans sa propre langue ou dans une langue unique. C'est assez difficile à démêler tout cela. Il y a une question spontanément qui me vient. Si le livre, tu l'avais écrit en roumain, d'une certaine façon, est-ce qu'il serait le même? Ou est-ce que l'accueil, le fait que tu inventes ta langue dans une langue seconde, une langue que tu as apprise dans un deuxième temps, qui n'est pas la langue maternelle, il s'agit bien de la mort de la mère tout de même au départ, mais ça n'est pas rien, elle transmet la langue, elle aussi. Est-ce que cela a influé sur la forme particulière de ce livre?
Oui et non. Moi, je peux écrire le même livre avec les mêmes, soi-disant, qualités photographiques et sonores par la voix. Je peux l'écrire n'importe quand en roumain. J'ai rien perdu de ma langue. Seulement que moi, je vis à Lausanne en français, je rêve en français. Ma fille, elle est là, je m'occupe de ma fille. Et avec mon analyse sur une écriture en roumain et traduction en français, j'ai réalisé que ça va me desservir si j'écris en roumain. Donc, quelque part, si je peux le faire en français, c'est tant mieux pour moi, parce que si j'écris en roumain, je dois le traduire, je dois le publier en roumain là-bas, parce qu'ici, personne ne publie en roumain, et je dois aller dans le monde que je connais très bien, mais que je ne maîtrise pas beaucoup, un monde que je déteste et j'aime à la fois, que je déteste par rapport à leur incapacité de se gouverner, de réaliser de bonnes et belles choses, surtout les gouvernements, et que j'aime parce que c'est aussi mon monde, c'est mon monde qui m'a créé, qui me crée toujours de cette manière. Donc, en continuant cette analyse, j'ai réalisé que si je suis en paix ici et j'écris en français et je suis accepté dans ce domaine de la culture qui s'appelle la littérature de langue française, mais j'ai pas besoin de me compliquer la vie. Mais si j'ai un défi ou si je dois le faire, je sais que je peux écrire de la même manière. Seulement que justement, je leur ai dit et je dis toujours aux Roumains, écoutez, la lutte, ma lutte, ça se passe pas chez vous là, parce que je connais leur mafia littéraire maintenant, les plus grands chefs de la littérature roumaine, critiques, universitaires ou dans les journaux, c'est des personnes très âgées qui ont eu la doctrine du parti unique de la dictature et qui étaient grands chefs à l'époque, qui sont restés grands chefs maintenant, et qui sont vraiment très, très dépassés par ce qui se passe en Occident ou dans d'autres pays, on n'a pas besoin de dire l'Occident, dans d'autres pays ailleurs, qui ne connaissent pas la démocratie de la culture, ni de la politique, et qui, pour eux, ils sont plus importants que ceux que les acteurs littéraires, que les auteurs. Les critiques d'abord, c'est-à-dire eux, aux propres figurés, avec la gloire, le laurier, l'argent, tout. Et vous, les autres, c'est nous qui décidons. Et qui sont vraiment en retard avec ce qui se passe dans le monde. Et j'ai eu l'occasion d'assister à des conférences dans plein d'endroits où vraiment des gens qui viennent de l'Est, même des Russes, même des Polonais, même des Roumains, même, voilà, ils sont vraiment certains très, très attardés. Et voilà, j'évite de perdre du temps, de l'énergie. Donc, je ne veux pas écrire en allemand, même si je peux, parce que ça me dessert. Voilà, ça me dessert complètement.
Alors, toute proportion gardée, moi, je pense qu'il y a une part commune entre l'expérience de Beckett et la tienne. Et Beckett, quand il l'écrit en français, lui aussi, il fait converger ce que j'ai appelé de façon scolaire, l'école du regard et l'école de la voix, dans son écriture de théâtre, mais surtout dans l'écriture des récits et romans, et notamment la trilogie Molloy, Malone-Meur et l'Innommable. Et beaucoup plus tard, et pour certains de ses livres, il faut savoir que Beckett a tout de même publié un certain nombre de récits en langue anglaise. Il écrit ensuite les livres que je viens d'évoquer, notamment en français. Il retraduira certains de ses livres. Je ne sais pas s'il a retraduit cela, la trilogie, c'est possible. Mais en tout cas, il en retraduira d'autres en anglais. Il fera l'aller-retour entre les deux langues. Et quand je dis retraduit, il les réécrit. Et cela a une... C'est Badiou qui faisait une conférence sur Beckett il n'y a pas si longtemps, qui observait avec amusement que cela a une conséquence, c'est que les textes de Beckett en anglais sont perçues comme beaucoup plus drôles encore, parce qu'à mon avis en français elles le sont déjà, que dans la langue française. Est-ce qu'il te vient parfois le désir, au-delà de ce que tu as dit sur les mafias littéraires, parce que la mafia littéraire elle existe en Suisse aussi, c'en est une autre, tu le sais bien, au-delà donc de ce que tu as dit sur les mafias littéraires, est-ce qu'il y a parfois chez toi le désir, la nécessité pour compléter le geste de réinvestir la langue maternelle et de réécrire ce livre ou de le traduire, je ne sais pas quel est le mot juste, en roumain.
Je ne vais jamais retraduire ou traduire moi mes livres en roumain. Il y a des traducteurs, ils s'en occupent, je leur fais confiance, je fais juste une correction. Mais comme mes livres commencent à être traduits dans plusieurs langues, je prends le même recul.
Oui.
Pour les traductions en roumain,
il y a eu une traduction roumaine de la symphonie.
Oui, justement, de la symphonie, elle est sortie donc, depuis 2 ans. Et ce livre-là, il est aussi traduit, mais il n'est pas encore publié. Donc je suis en train de corriger quelque part, de vérifier phrase par phrase comment ça se passe. Mais par rapport à la langue, justement, j'ai parlé tout à l'heure de la récréation de mots, la récréation des mots. Avec ce jeu de la langue, c'est absurde aussi. J'ai écrit des poèmes drôles quelque part que j'ai introduits ici dans soi-disant petite philosophie pédagogique avec les mots qui ne devraient pas être et la récréation des mots. Je vais vous lire le passage qui explique ça très bien avec un mot à la récré, avec une lettre aussi, parce que les mots sont faits par une lettre. Et justement, ce jeu de poèmes pareil, je l'ai fait en roumain aussi, spontanément. Mais c'est intraduisible, vous allez voir. Ce que je vais vous lire en français, c'est en français. J'ai pris toutes les lettres de l'alphabet avec des mots et j'ai fait ça. Et en roumain, j'ai fait la même chose avec toutes les lettres. Et c'est avec des mots en roumain et on ne peut pas traduire. C'est impossible de traduire. Et je l'ai fait spontanément. Je ne sais pas qui va les publier en roumain. Mais ici, je les ai intégrés dans un livre qui est structuré aussi sur ce thème-là du langage, du rôle du langage, de l'absurdité du langage, des capacités, des incapacités du langage. Alors, c'est la page 46. Voilà. Je ne dis plus chapitre parce qu'il n'aime pas que je dise chapitre. Une partie du livre.
Parce qu'il n'y a pas de chapitre dans ton livre.
Voilà.
J'en suis certain.
Alors. Tu écris le mot chien et à la main tu l'écris sur une page blanche A4. Tu vois ta main qui tient le stylo bi, les 3 doigts de ta main droite qui serrent le stylo bi et le dirigent sur la feuille. Tu vois la lettre C, puis la lettre H, tu vois la lettre I, puis la lettre E et tu finis d'écrire ce mot chien, tu vois la lettre N. Tu penses à la lettre N, tu l'écris sur cette feuille, tu penses à cette lettre du mot chien, tu te dis que tu vas envoyer les mots à la récré, tu veux écrire et vivre la récréation des mots, tu écris encore une fois la lettre N sur la page où tu as écrit le mot chien, tu prononces plusieurs fois dans ta tête le mot « chien » et la lettre « N » et tu commences à libérer des mots et des lettres sur une feuille A4. « N, ne N, nager, non moi, nonchalant, noyau de noix, N, nylon, N, nurs, nature, nimbe, N, 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 ne, nocturne, N, 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 nouveau, N, 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 nos, N, 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 naphtaline, N, 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 navet, N, 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 négocier, N, 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 net, N, 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 neutron, N, 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 niveau, N, N, non-lieu, N, 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 notre, N, N, no, N, N, nuit, N, 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 nutritive, N, N, numéro. Et j'ai eu le même envie de faire des récréations de mots pareils, mais en roumain. C'est impossible de traduire. Surtout la première partie qui est en vers, voilà, avec des rimes, plus ou moins. C'est impossible. Mais je l'ai fait en roumain, de la même qualité. Je suis content des deux. Mais je ne peux pas les traduire. Je les ai exprimés. Maintenant, pour les publier et les intégrer en français, ça fonctionne. Chez José Corti, ils n'ont rien dit. Ah, bah, chez les Roumains,
Ouais, t'es enfantin, ouais, c'est n'importe quoi, t'es dadaïste ou quoi. Voilà.
Vraie question. Vraie question, bien sûr. Voilà, bien sûr, ou lettriste, peut-être.
Voilà. Parce que justement, c'est très difficile de dépasser le critique littéraire en Roumanie. Ici, c'est quand même un équilibre entre l'auteur et le critique. Il y a une entente quand même.
Voilà, mais maintenant, il faut donner la parole à nos critiques littéraires, c'est-à-dire à l'ensemble des participants, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, et toi aussi. Il y a sûrement quelques relances, quelques questions, quelques protestations véhémentes qui vont surgir de la salle.
Oui, quand on entend lire Robert School, on entend surtout une parole. Une parole qui peut être effectivement incantatoire, mais comme vous l'avez dit, c'est surtout une parole qui est inspirée par les événements vécus, par l'école de la vie. Et malheureusement, nous avons assisté entre le critique et l'auteur, mais le critique est également auteur, il la passe, à un malentendu absolu. C'est-à-dire qu'on voyait d'une part un critique qui cherchait, je sais qu'il n'a pas ça, et n'est pas que critique, mais la place qu'il occupe aujourd'hui est celle du critique, à emprisonner dans des catégories complètement dépassées, en parlant d'école du regard, en parlant de voix, Popescu ne peut pas appartenir à ce genre de démarche, ne s'inspire pas de ce genre de démarche. Et quand il parle de l'école de la vie, le lecteur est renvoyé à Panaï Distrati, à Maxime Gorki. Mais Popescu ne se limite pas à Gorki, ne se limite pas à Panaï. Il a créé une parole. Et cette parole, elle naît d'un art de ce qu'on peut appeler la pronomination. Ce n'est pas un hasard si, avec le tu, le narrateur se libère à la fois de son exil, il se crée, il s'approprie vraiment une identité littéraire. Il a besoin de ce tu pour s'interpeller et pour se sentir exister, je crois. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il ne cherche pas du tout un message, il cherche simplement à reconstituer une identité et son vécu qui est parti en Indonésie.
Ça, c'est l'intervention d'un critique littéraire, au meilleur sens du terme. Hein. Moi, je n'étais pas en posture de critique littéraire. Je peux être dans le malentendu, mais pas dans la posture de critique. Je vous en prie.
J'aimerais poser une question à Popescu, c'est est-ce que, en écrivant en français, et ça rejoint un peu les dernières réflexions que vous avez faites, en écrivant en français, à aucun moment il y a une autre voix qui vient s'interposer à ce français. Ou si vraiment, parce qu'on voit bien que quand vous lisez ce texte, il y a un amour, un plaisir de la langue. Et je suis étonné par le rythme de lecture qui est très lent, qui est extrêmement lent, qui veut dire que vous savourez cette création, cette recréation et cette récréation. Hein, effectivement. Mais c'est vrai qu'à la base, il y a quand même un vécu et vivent les pays de l'Est et qui restent un tout petit peu toujours aussi près de cette vie. Parce qu'il y a du misérabilisme, il y a du naturalisme, il y a de l'absurde, il y a du non-sens et tout ça vient justement d'une culture et d'une nature qui sont propres à la Roumanie ou à d'autres pays. Donc on n'y échappe pas quand même. Mais ce qui est merveilleux, c'est cette retransposition en français. Et je voulais demander à Popescu, je reviens à la question, dans quelle mesure le français que vous écrivez, que vous parlez, est imprégné, non pas du roumain, mais d'un souffle qui vient de votre pays natal.
C'est possible qu'il y a un souffle qui vient de mon pays, mais il n'est pas dans la langue roumaine. C'est pas la langue roumaine qui vient, mais ça peut venir de plein de musiques que j'ai saisies chez les êtres humains de partout. En reprenant votre hypothèse avec la reconstruction de l'identité, bien sûr, il y a cette possibilité d'interprétation
aussi. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé et je me suis prise au sérieux pour, dans la littérature, pour faire des livres quand j'ai réalisé que je peux le faire tout en réalisant ce que les autres font en Roumanie et en Suisse. Donc je me dis, mais moi je peux faire ça, est-ce que ça peut concurrencer les autres? Je dis, ah ouais, ça peut pas mal concurrencer, donc je peux y aller là. Maintenant, en faisant un retour à la Roumanie qui justifie ce que je viens de dire, donc ma manière d'être déterminé d'écrire, de travailler, parce que c'est un travail, et je m'en fous de mon identité quelque part. En faisant aller-retour entre la Suisse et la Roumanie pendant 21 ans, 22 ans maintenant, je disais à mes amis écrivains roumains, que je connaissais depuis longtemps, qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué, qui m'ont nourri quelque part, avec la poésie surtout, je disais, mais vous parliez qu'il y a les écrits de tiroirs, c'est où les écrits de tiroirs de la dictature? Il n'y avait plus, il n'y avait pas. C'était n'importe quoi, il n'y a pas eu un qui a sorti ses écrits de dictature. Et je dis, mais alors vous les grands là, allez-y, écrivez sur ce que vous avez vécu, témoignez avec votre art, votre caractère, votre diplôme, votre tout, hein. Sortez vos romans, vos grands poèmes, maintenant c'est la liberté, il y a 1000 maisons d'édition nouvelles, il y a plein, allez-y. Non, très très peu, très très peu. Et là, je râlais comme ça avec mes amis, il y a un qui m'a dit, bah, fais-le toi. Mais je dis, mais je vais le faire. Et c'est un peu comme ça, à l'ambition, à la provocation. Je dis, mais merde, alors il faut que je fasse ce travail aussi. Et le faire, et en voyant que ça marche, je le fais assez bien, en étant malin aussi. Hein, merci Yves. On peut interpréter comme identité, on peut interpréter comme photo, machin. Moi, je m'en fous complètement. Je sais que c'est accepté. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai encore à écrire, à écrire, à écrire. Et je l'ai dit, je veux témoigner, oui, mais je ne sais pas comment vous allez interpréter. Je ne sais pas et je ne veux pas. Mais bien sûr, d'une certaine manière, je commence à savoir. Mais il ne faut pas que je rentre là-dedans. Non, 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 parce que mon travail, c'est pas dire non, c'est pas ça, non, c'est ça. Non, 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 non. Mon travail, c'est écrire la suite, écrire la suite, écrire la suite, et de temps en temps parler de possibles interprétations. Et bien sûr, il y a une langue, le français, j'adore le français. C'est comme l'amour, quoi, avec la langue à un moment donné. C'est comme l'amour, mais comme dans l'amour aussi, bah, il y a des capacités, des incapacités, des chocs, des tristesses aussi, des caresses, des crachats, des hurlements, il y a du tout. Et voilà, je continue gentiment. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'apprends toujours en lisant plein d'écrivains de partout, classique ou pas classique, nouveau, moderne, quelqu'un qui me donne un livre, moi je lis. Et j'apprends toujours à l'école de la vie, elle finit jamais cette école de la vie, et j'apprends avec ceux qui m'entourent, avec ma fille, avec toi, avec vous. Avec les clients de bus, avec les Roumains, les Français, les Israéliens, les Iraniens, avec tout le monde. Et ça me nourrit, ça me nourrit, ça me donne tout de suite des idées. Ah, ça chante autrement, ça va, je peux changer, je peux faire un essai. On va voir s'ils vont accepter. Et tant qu'ils acceptent, ça va. Je continue. C'est sûr que C'est quelque chose qui peut être sur le tranchant du couteau, comme on dit. Parfois, je lis des textes et je sais que n'importe quel texte de n'importe qui, de n'importe quel livre du monde peut être lu avec les deux extrêmes. C'est un texte superbe, extraordinaire, ou c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et j'ai cette manière de percevoir dans n'importe quel texte comme je perçois n'importe quel visage d'un homme, d'une femme, d'un petit ou d'une personne âgée avec les deux facettes. Je vois la mort et la beauté. Et là, c'est incroyable. Je reviens vers un absurde, mais je me considère un positif, donc l'absurde, pas comme certains absurdistes, connus ou pas connus, on y va, allez, on continue, on danse, on vit jusqu'au bout, on va voir, on a l'espoir, la force, et on se bat, voilà, on croit, et on attend qu'on soit délivré, quelque part.
Il y a peut-être quelques interventions encore. Tout à l'heure, je le dis très très amicalement, mon propos, mais peut-être l'as-tu perçu autrement, était de te demander comment tout ça, ça se faisait. Et c'était des interrogations que je me posais comme lecteur et comme auteur dans une communauté de travail ou d'intérêt ou de passion avec toi. Je ne cherchais pas du tout à enfermer le livre dans des catégories, hein. Pas du tout, c'est impossible. Mais je crois aussi qu'on est évidemment héritier de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vécu et traversé, que cela est d'ailleurs indissociable, et qu'il faut essayer, quand on en répond, de savoir comment ça nous est arrivé. C'était un peu le propos de notre conversation, me semble-t-il. J'en suis mauvais.
Comment
juge.
Ça se fait ? Ouais, comment ça se fait ? Oui, on peut parler des réalités. Peut-être que je suis un peu obsédé par le réel, peut-être. J'ai été il y a quelques jours à Lausanne pour parler avec des gens sur un thème que j'ai proposé, les réalités dans la littérature suisse romande, de la Suisse romande, chez les écrivains suisses romands, leur réalité, les contemporains. Parce qu'à mon avis, les écrivains suisses romands, dans la plus grande partie, en majorité, avec peu d'exceptions, ne sont plus capables de saisir leur réalité. À mon avis, je provoque, bien sûr. Les réalités lesquelles ? Les réalités de la vie de chaque jour, que ce soit chez les riches et chez les pauvres, que ce soit dans la rue, dans l'appartement, dans une villa, dans un chalet, dans un train, dans un avion, à la Migros, chez Denner, à la Coop, chez Placette, et voilà. Que ce soit à Neuchâtel, à Genève, ou à Lausanne, ou à Porrentruy, ou ailleurs, dans un village, dans un machin. Avec l'école de la vie, je suis sans arrêt abasourdi dans le bon sens par les réalités d'ici, parce que les réalités de partout sont là et nous touchent. Et quand je lis ce que je peux lire, bien sûr, je ne peux pas tout lire, je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste de la littérature romande, mais toujours en provoquant, je dis, mais non, mais c'est pas vrai. Ils ne voient pas ce qui se passe là. Ils ne font pas raisonner, ils ne font pas vibrer leur environnement, leur famille, leur mère, leur fille, quand ils commencent à le faire vibrer, mais merde, ça sonne creux, ça sonne faux. Ils ne mettent ni leur langue maternelle, ni leur environnement, ni leur réalité. Et bien sûr, je provoque, je tiens à ça, à provoquer. Et je me dis, mais merde, ça ne va pas. Alors moi, allons parler de réel. Donc ça se fait aussi avec le réel. C'est quoi le réel ? Bah, n'importe quoi, dans le bon sens. Le n'importe quoi n'existe pas. Voilà, il n'y a pas n'importe quoi. Tout importe. Comment on a rangé la salle et comment on va la ranger après, à la fin. C'est un rituel. Pour moi, tout est rituel. La sacralisation du banal, la sacralisation du quotidien, je la vis en permanence. Ça se fait aussi comme ça, et comme ça on aborde une autre manière de l'école de la vie. Ça peut devenir un concept, bien sûr, parce que nous les êtres humains on transforme tout en concept en oubliant qu'avant le concept il y a quelque chose de beaucoup plus important, et on conceptualise à l'aide de mots, et on réalise que les mots ils nous aident à plein de choses, mais en même temps il nous aide pas beaucoup quand on a besoin. Et voilà, il y a cette réalité qui est sacralisée, cette réalité qui peut paraître banale, la réalité du quotidien, qui est ritualisée dans des rituels sacrés qu'on trouve dans toutes les religions et chez tous les peuples. Une sacralité qui peut prendre un film ou des sons, des rythmes à travers la langue française.
Je pense que c'est une très belle conclusion provisoire. Mais je ne veux pas couper la parole à la salle, parce qu'il y a peut-être encore une ou deux interventions. Oui, madame.
La lecture disons, du premier chapitre, effectivement, vous cernez la réalité, mais moi, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça devient plus réel. Quoi. Je n'arrive pas bien l'exprimer. Mais j'ai eu l'impression que, effectivement, vous appliquez à rapporter des faits, à cerner la réalité, presque comme une litanie. Mais à la fin, vraiment, quand je l'ai reçu, ressenti, j'ai l'impression que c'est plus du tout réel. C'est bizarre. J'ai l'impression que je voyais les images, je voyais, et puis au bout d'un moment,
il y a plusieurs types d'interprétation de mon écriture. Certains ont dit, peut-être un peu dans votre sens, que je peux avoir une sorte d'écrit hypnotique, ça peut être de cette manière. Et d'autres ont dit aussi que ça peut être une sorte d'art brut, voilà, chacun son interprétation. Moi, j'ai rien contre. Mais c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas en transe, il n'y a pas de transe. J'ai une lucidité quand j'écris, j'ai une musique et le souci du détail et de la ritualisation, et de la perception des vibrations, je les appelle moi, du monde qui nous entoure avec respect, sincérité. Et bien sûr, comme ça, bah, on voit des scènes plus ou moins dures, plus ou moins sensibles, plus ou moins jolies. C'est pas du réel, ça s'appelle de l'art, ça c'est sûr. Le réel, c'est quoi le réel?
C'est pas la réalité. mais c'est dans ton écriture.
On ne sait pas encore ce que c'est le réel. Et bien sûr, je suis de nouveau malin parce que j'ai eu la chance de faire 2 ans de sociologie, cours de jour chez vous à Genève. Il y a une quinzaine d'années, et j'ai eu cette chance parce que ça m'a ouvert encore plus à la société d'ici. J'ai eu la gauche, par le biais de M. Jean Ziegler, qui était, je pense, sa dernière année d'enseignement, et j'ai eu la droite, par le biais de M. Uli Windisch, et j'ai eu plein d'autres, plus ou moins au milieu, plus ou moins centraux, plus ou moins, voilà. Et je me suis amusé et je venais cours du jour, je répète. Je travaillais dans les bus et j'étais en sociologie ici. Et justement, j'ai appris encore d'une autre manière comment prendre du recul, comment observer, comment rendre cela en prenant très très peu de valeur, si possible, mais vous savez très bien. N'importe quel mot, si on le met quelque part, c'est déjà un jugement de valeur. Même notre simple présence corporelle, c'est un jugement de valeur. Toute expression, tout signe, il est interprétable par les autres, c'est un jugement de valeur. Donc, on est dans quelque chose de très, très complexe. Là. Donc, le réel, définir le réel, pour revenir à ça, c'est très difficile. C'est très difficile à le définir pour moi, pour vous, pour tous. Et en même temps, vous savez très bien qu'il n'y a pas une seule... idée, une seule définition au monde qui est unanimement acceptée, que ce soit le réel, Dieu ou autre chose, il n'y a pas.
En tout cas, il y a une dimension de cristallisation dans ton écriture, moi je m'arrêterai là avec les interprétations, mais qui précisément convoque et la réalité et le réel, qui, tu le sais bien, sont deux choses un peu différentes. Hein. Le réel, c'est ce que la réalité fait en toi, d'une certaine façon, et la façon dont tu la restitues dans un événement d'écriture, qui est par exemple.
Et il y a un autre détail, moi je tiens à ce détail, c'est qu'on dit parfois n'importe quel être humain, n'importe quel individu est un univers. Et ça me fascine, ça me tient, ça me suit, ça va me suivre toute ma vie. Comment rendre l'univers d'une seule personne ? Comment rendre l'univers de 2 personnes, comment rendre l'univers de 10 personnes, que ce soit les personnes que nous sommes maintenant, ou les personnes de ma classe, de mon enfance, ou les personnes de votre classe, de votre enfance, ou les personnes de votre famille. Comment rendre ces univers? en parlant, en discutant, bien sûr, mais c'est fort. Donc j'essaye de rendre des univers d'un individu, d'un personnage, de deux personnages, de plusieurs, mais c'est incommensurable. C'est très difficile. Et là, on utilise les moyens qu'on a. Cette fois-ci, la langue française.
Très bien, je crois que nous nous interrompons.